J'ai bien hâte de parler à notre prochain invité, c'est Ray Lalonde, bien sûr, qu'on connaît bien au réseau Cogeco, notre expert en marketing sportif. Salut Ray!
Bonjour Philippe!
Ray, toi et moi, avant l'émission, on a discuté un petit peu de ce sujet-là pour préparer notre entretien, mais il y a eu aussi des propos d'auditeurs, il y a eu des propos d'Alexandre Pratt, des propos de Jean-Luc Brassard aussi, qui étaient très, très intéressants. Toi, t'arrives là, t'as un petit peu le recul de toute la discussion qui dure maintenant depuis quoi? Une heure et demie. C'est un enjeu complexe parce que le droit d'expression, c'est fondamental dans notre société, mais d'un autre côté, les athlètes sont d'abord payés pour faire du sport, pour faire une performance sportive. Alors, comment, toi, tu mets les limites là, entre ces deux axes de leur travail?
Bien, c'est un sujet passionnant, Philippe. Je pense qu'il faut avoir un peu de perspective, puis avoir le bon contexte, puis avoir un peu d'une ouverture d'esprit. Pour moi, un athlète aujourd'hui, en 2019-2020, un ou une athlète, évidemment, doit s'exprimer. Les plateformes sont nombreuses. Les opportunités dans l'univers d'aujourd'hui, dans la société, à part le droit fondamental d'expression, bien sûr, mais les opportunités et les occasions sont multiples. Et on veut entendre ce que les athlètes, hommes ou femmes, ont à dire. Donc, c'est forcément important, à mon avis, que ce soit pour une équipe, une organisation, une ligue, une fédération, d'aider et de supporter, soutenir les athlètes dans l'expression de leur message. Donc, il faut encourager cela parce que ça encourage l'engagement, ça encourage la connectivité avec les consommateurs, les partisans d'une équipe, d'une ligue, d'un sport, peu importe. Et les gens d'aujourd'hui, en 2019, les consommateurs, les partisans, veulent entendre directement de la voix des athlètes.
Mais ça peut devenir controversé. Oui. Et ça, les organisations aiment moins ça.
Oui, absolument. Puis là-dessus, je t'exprime le point de vue fondamental que en 2019, les médias sociaux, les gens ont leur plateforme. Parfois, ils prennent des noms fictifs, mais en tout cas, tout le monde s'exprime. Tout le monde a des commentaires sur chaque article, chaque blog. Tout le monde a des commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Tout le monde a des observations qui partagent, généralement positifs, constructifs, mais parfois négatifs et un peu dans le mauvais sens de cette connexion-là. Mais ultimement, les athlètes font partie de ça. Tu as des athlètes dans le monde, de LeBron James jusqu'à Ronaldo, l'homme le plus populaire de la planète, sur l'ensemble de ses médias sociaux, qui touche à peu près 350 millions d'abonnés. Alors, tu sais, là, on parle d'un gars qui, sur la planète entière, avec une équipe comme la Juventus, autrefois avec Real Madrid, mais tu sais, il demeure l'homme qui s'exprime pas souvent, mais il y a tellement d'engouement autour de lui, les gens attendent un moment où il s'exprime. Tu as des artistes comme Taylor Swift qui ont plus de 100 quelques millions, mais qui ne dit jamais un mot sur un compte comme Twitter, par exemple, malgré le fait qu'elle a des dizaines de millions d'abonnés, qui attendent impatiemment un jour un mot de la part de leur vedette, de leur héros.
Mais bon, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on ne juge pas les athlètes et les artistes de la même façon. Un chanteur, une chanteuse engagée, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Un sportif, une sportive engagée, oups, il y a la moitié des gens qui sont pas contents.
Oui, parce que là, tu as raison, les gens trouvent que ces gens-là ont débordé et ont dépassé un peu les paramètres permis. Donc, on est plus critique envers les athlètes, bien sûr. Mais à l'opposé, Philippe, les athlètes, surtout ceux qui jouent pour une équipe, c'est-à-dire qui sont des employés. Là, je parle pas d'un Raphaël Nadal ou d'un Tiger Woods qui sont un peu à leur compte, leur marque. Ils jouent dans une ligue, mais c'est leur équipe, leur business, c'est leur marque de commerce.
Leur image, c'est leur propre image qui est en jeu.
Et voilà. Alors là, c'est différent parce que tu sais, t'as des athlètes qui pourraient en avoir beaucoup plus de popularité, qui veulent pas s'exprimer trop, mais ça a des conséquences. C'est pas des conséquences négatives ou graves, mais ça veut dire que si t'es moins populaire, peut-être que tu vas avoir moins d'occasion de te commercialiser et de faire monétiser cette popularité énorme. Et d'autres, je pense à des athlètes comme Eugénie Bouchard, qui n'ont pas le succès sur le terrain de tennis, mais qu'elle a un succès énorme en termes de médias sociaux puis de popularité. Elle a réussi à traduire ça par des opportunités commerciales. Elle en a moins aujourd'hui, mais elle en a eu beaucoup à cause de son immense popularité.
Mais d'un autre côté, ces messages ne sont pas des messages qui portent beaucoup à conséquence sur le plan social ou politique.
Tout à fait. Tout à fait. Fait que là, on parle de plateforme, on parle d'athlète, on parle de 2019, puis c'est quasiment une obligation, en tout cas, de veiller sur ton image. Et là où je m'en vais, c'est vers les équipes où là, tu as un employeur qui paye ton salaire et qui a des règlements et qui a des restrictions et qui insiste, pour avoir été avec les Canadiens longtemps, pour qu'il y ait une certaine ligne de conduite, Philippe, pour pas que tout le monde parte chacun de son côté, communique des messages, puis là, ça peut mettre... Bon, l'équipe ou l'organisation dans l'embarras ou en difficulté parce qu'on essaie trop de contrôler. Bon, là, ça devient plus délicat parce qu'à un moment donné, la Ligue, je pense toujours à la NFL qui a voulu se cogner la tête contre Colin Kaepernick, puis là, les propriétaires se sont joints derrière, puis là, soudainement, il y avait comme une espèce de complicité pour que Kaepernick ne joue plus au football dans la NFL parce qu'il représentait une voix sur le changement dans la justice sociale, puis dans l'espèce d'élément politique qui existe aux États-Unis, puis lui, il se plaignait, il devenait un problème à gérer, et la Ligue a voulu mettre des règlements, en réalité que la société n'était pas tout à fait en faveur des règlements pour un peu dissimuler puis camoufler ces joueurs-là. Alors, il y a eu une grosse affaire qui s'en est suivie avec ça. Puis le point là-dedans que je veux dire, c'est que l'athlète doit savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, jusqu'où il ou elle peut aller avant de s'exprimer sur des causes politiques, sociales, culturelles qui ont un impact sur la société.
Parce qu'ils prennent un risque quand ils le font. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Puis pour certains, ça peut bien tourner, puis pour d'autres, ça peut mal tourner. Puis le cas de Kaepernick, c'est un peu l'un et l'autre, parce que ça a très mal tourné sur le plan sportif. Sur le plan, par contre, de la représentation commerciale, ça a été pas mal.
Oui, parce que Nike a bien joué le jeu de s'allier à lui, encore plus, de façon plus importante. Ils ont offert un peu l'argent en garantie là, qu'ils auraient gagné avec les 49ers ou toute autre équipe. Le Paul Kaepernick, cependant, a un âge quand même important dans sa carrière, a perdu un peu le reste de sa carrière de joueur. Il y a des gens qui ont souvent critiqué en disant que Kaepernick n'était pas très bon sa dernière année. Je rappelle aux gens qu'il a quand même conduit son équipe au Super Bowl contre les Ravens dans une de ses 3-4 premières saisons dans la
Ligue. Tout à fait. On l'oublie trop souvent.
Absolument. Puis, tu sais, honnêtement, à l'époque, là, où il était à son meilleur, on disait que ça représentait un peu le profil du nouveau corps arrière athlétique qui courait puis qui lançait, qui avait tous les éléments. Puis, soudainement, ben lui s'est rallié à sa cause, à sa passion, à ses valeurs morales. Et soudainement, ça a coûté une carrière. Et dans d'autres cas, ses coéquipiers qui l'ont supporté ont aussi payé le prix pour avoir été trop aligné avec lui.
Et si Kaepernick avait été un joueur de basketball, l'histoire aurait été probablement très différente.
Excellente observation, Philippe, parce que tu sais que s'il y a une ligue, puis je parais un peu vendeur, là, mais honnêtement, en toute franchise, là, la NBA est plus progressive simplement que les autres ligues.
Explique-nous pourquoi. Pourquoi c'est comme ça?
Ben, je pense que Adam Silver, qui suit dans les rangs de David Stern, David Stern a toujours été le commissaire des joueurs. Mais je vais te dire, pour avoir assisté moi-même à des rencontres entre joueurs et propriétaires, à l'époque de la NBA, qui a déjà eu ses lockouts puis ses grèves, là, je peux te dire que David Stern, c'est un gant de velours, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et ce que je veux dire par là, c'est que lui, quand c'était le temps d'affronter Michael Jordan ou Patrick Ewing à l'époque, ça y allait pas de main morte. Mais cependant, les joueurs adoraient David Stern parce qu'à la fin, il travaillait dans les deux sens. Enrichir la business, globaliser, Philippe, le produit, et rendre tout le monde plus heureux, plus prospère. Adam Silver, lui, il l'emmène à un autre niveau. Non seulement c'est un ami littéral des joueurs, mais lui aussi a son gant de fer. Lui aussi est capable de tout de suite punir les athlètes, punir les propriétaires, sans hésitation. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il supporte les joueurs dans leur envie de s'exprimer socialement.
Ouais.
Et aucun autre commissaire de sport le fait comme ça depuis l'histoire.
Non, et non seulement les joueurs, mais les entraîneurs aussi. Et les entraîneurs sont des employés de premier plan des compagnies qui sont les équipes, essentiellement. Quand on voit les commentaires de Steve Kerr, de Greg Popovich, depuis l'élection de Donald Trump, encore cette semaine, là, à propos du contrôle des armes à feu, ils n'ont aucune crainte de s'exprimer et puis d'en remettre autant qu'ils le sentent nécessaire.
Oui, c'est tout à fait exact, parce qu'ils savent qu'Adam Silver va être derrière eux. Et la force de la NBA, c'est une ligue, effectivement, composée de 13-14 joueurs par équipe, Philippe. Les joueurs prennent une place énorme. Ils ont une influence. Écoute, t'as vu ce qui s'est passé dans l'autonomie des joueurs au début juillet, là? et de Kawhi Leonard aux autres, là, mais les joueurs ont littéralement pris le contrôle de la ligue.
Ouais, d'ailleurs, là, il va falloir, là, juste un petit aparté, mais il va falloir voir si Adam Silver là, va se servir de sa main de fer dans son gant de velours, parce que
ben oui,
là, on peut poser des questions là, sur ce qui s'est passé.
Ironiquement, ça n'a pas été long, deux semaines après, qu'il y a eu une rencontre avec les gouverneurs pour parler justement du système.
Ouais.
Alors, tu vois, il n'hésite pas. Il ne peut pas l'appliquer cette année, il est déjà trop tard. Mais l'an prochain, je te garantis que les règles vont être beaucoup plus serrées. Il va contrôler ça, cette fois-ci, en faveur des équipes qui perdent des joueurs. Mais mon point là-dedans, c'est que Adam Silver encourage l'expression des joueurs, la liberté, les opinions, parce qu'il sait que sa ligue est une ligue de stars, une ligue de joueurs vedettes. Et ces joueurs-là doivent être heureux, doivent être prospères, doivent être libres de pouvoir influencer les consommateurs. Donc, LeBron James, quand il se présente le lendemain d'un je pense que c'était Eric Garner qui avait été littéralement étranglé, et la mention, là, on l'a entendu récemment, ça a ressorti, là, « I can't breathe ». Alors, LeBron James et ses coéquipiers avec le Heat de Miami à l'époque, ou les Cavaliers, je me souviens pas trop, portaient un chandail dans l'avant-match, « I can't breathe
».
Et Adam Silver n'a pas pénalisé les joueurs pour ça. Contrairement à Roger Goodell qui réagit tout de suite quand les joueurs mettent un genou au sol.
Ouais.
Alors, encore une fois, beaucoup plus de soutien. Et les joueurs le savent. Ils sont prêts à jouer. Ils sont prêts aussi à encadrer leur commissaire.
Mais le président Trump a attaqué la NFL, a attaqué les propriétaires d'équipe en disant « Hey, soyez plus sévères », puis a attaqué les joueurs tellement durement, inutile d'en reparler, alors qu'il n'a pas vraiment attaqué la NBA. C'est comme s'il savait qu'il y avait une solidarité là,
et voilà. Et
alors que dans la NFL, il pouvait exploiter des divisions.
Mais tu te rappelles quand l'animatrice à Fox News s'est mise à attaquer LeBron James pour lui dire, si tu me permets l'expression en anglais, là, « shut up and dribble ». Ce qui voulait dire, là, tais-toi puis va dribbler le ballon. Mais LeBron James, il a pas réagi à elle directement. Il a réagi de façon générale comme si lui-même était un politicien, un leader d'une nation. Il a pris le rôle de dire, « OK, je laisserai pas quelqu'un nous parler comme ça parce qu'on est capable de faire plus que juste être un athlète. On est capable de faire plus que dribbler des ballons et on va pas perdre notre temps à répondre à des gens comme ça qui insultent finalement une majorité de la population américaine qui sont pas, tu sais, riches et millionnaires comme ça et à la télévision à chaque jour. Alors, LeBron James a toujours bien joué le rôle social. Tu le vois dans ses investissements avec une école pour les jeunes où il paie la scolarité, puis il paie les vélos, puis il paie le lunch, puis il paie toute l'idée de les garder à l'école pour éviter qu'ils se retrouvent dans la rue. Steph Curry qui a toujours dit, nous et les Warriors, on se présentera jamais à la Maison-Blanche. T'sais, alors, ils n'ont jamais hésité pour faire exprimer leur point de vue sur la gestion actuelle, surtout. Donc, quand on vient au gars du Union, Bedoya, alors, je suis obligé de dire que il y avait l'occasion, il y avait la plateforme, il s'est fait entendre, puis Don Garber va être dans une situation pas mal délicate s'il décide d'aller à l'encontre de ce joueur-là. Et ce qui pourrait arriver, c'est qu'il pourrait en avoir d'autres, mais honnêtement, Philippe, avec ce qui se passe dans le pays, là,
il n'y aura pas de sanctions. Il ne peut pas avoir de sanctions pour ça. Je suis en compagnie de Ray Lalonde, notre expert en marketing sportif. Ray, prenons l'exemple d'un jeune athlète aujourd'hui, le Québécois, qui aurait le goût de s'exprimer sur des enjeux plus complexes, des enjeux sociaux. Et puis, il irait te voir, toi, en disant, « Hey, Ray, vous êtes un expert. Qu'est-ce que vous me conseillez si je veux tenter ce coup d'audace et me prononcer sur des sujets plus complexes? »
Moi, personnellement, j'aviserais un joueur de réfléchir à ce qui est important pour lui, sa carrière, sa vie, ses passions, ses valeurs. Et c'est comme une commandite, Philippe. Tu dois t'allier et t'associer avec des produits, des services, des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Alors, pour les mêmes raisons commerciales, de dire, ben, moi, je peux pas vraiment, excuse l'expression, là, je peux pas vraiment m'associer à ce type de voiture, je conduirai jamais ça. Ben, donc, prends la même position et la même réflexion dans tes commentaires et tes prises de position sociales, culturelles, artistiques et politiques. Fait que finalement, je dirais, établis un peu qui tu es. C'est quoi ta vision de ta marque, de qui tu représentes? Qu'est-ce que tu veux qu'on associe à toi qui va te distinguer du reste des masses de joueurs partout? Et quel est le rôle que tu veux avoir et qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Et dans ce cas-là, Une fois que tu as établi et tu as réfléchi à ça, écoute, il pourrait dire, moi, je veux m'associer à des causes humanitaires. Moi, je veux m'associer à des animaux abandonnés. Moi, je veux m'associer à la population vieillissante qui a besoin d'aide. Moi, je veux m'associer aux jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de l'équipement sportif. Philippe, il y en a 50 opportunités comme ça.
Oui, mais ça, ce sont toutes des causes. On ne peut pas être contre ça. Il n'y a personne qui peut être contre ça. Mais quand ça touche des enjeux plus qui vont diviser davantage.
Oui.
Et je pense un peu à Megan Rapinoe, là, tu sais, quand elle défend ses combats, quand elle porte ses combats, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Probablement qu'elle a l'appui d'une majeure partie de la population, mais c'est pas nécessairement tout le monde. Puis Kaepernick, c'est la même chose. Alors, il y a des enjeux où un athlète, s'il décide d'aller dans cette voie-là, il faut qu'il sache que le ressac peut être important.
Il y a souvent des conséquences. Puis tu vas... rappelle-toi, là, de justement, quand... c'est qui avait fait des commentaires, je pense, je me souviens, ah oui, c'est ça, c'était les commentaires de Kaepernick, l'association avec Nike, puis les gens, le lendemain, se sont mis à brûler les espadrilles, les baskets de Nike, et de mettre ça sur YouTube, puis de partager ça, et la cote a baissé au marché boursier, mais quelques jours après, ça a reparti en flèche.
Parce qu'on s'était aperçu que les souliers se vendaient très bien.
Exactement. Ouais. Bon, moi, je me rappelle, à un moment donné, dans la NBA, le meilleur joueur de l'histoire qui jouait dans les années 90 au moment où j'étais là était Michael Jordan. Michael Jordan, tu ne pouvais jamais rien entendre de la part de Jordan sur des causes comme ça. C'était une autre époque, une autre génération, et Jordan n'avait pas envie, lui, d'assumer le rôle de leader, et les gens lui ont souvent reproché, Philippe.
Oui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, comme propriétaire d'équipe.
Oui, parce que là, il est propriétaire d'équipe. Lui, il veut garder sa base de clients, de consommateurs, puis ses détenteurs de billets de saison. Puis, c'est certainement pas un manque d'argent. Il n'y a rien à perdre. Il pourrait influencer, un peu comme Mohamed Ali l'a déjà fait, puis un peu comme LeBron James le fait plus aujourd'hui, mais il avait décidé de pas le faire. Aujourd'hui, là, c'est sûr que les sujets politiques divisent ou unissent. C'est beaucoup plus fragile, comme surface, là, que de prendre des positions humanitaires. Mais à quelque part, je reviens toujours à la question, comment tu conseillerais quelqu'un? Ça serait de se faire une idée de qu'est-ce qu'il veut symboliser, représenter, et de choisir la plateforme, le bon moment, et ses commentaires, et de prendre de l'aide au niveau relations publiques d'une firme qui est prête à t'aider à exprimer ses points de vue-là, et reste sur ton message. Et vis avec les conséquences, parce qu'il va en avoir, c'est sûr.
Ouais. Mais, et je vais terminer là-dessus. En employant cette théorie-là, il n'y a pas le risque que le message manque de spontanéité, que ça soit trop étudié, puis que ça paraisse. Oui. Puis là, que les gens disent, c'est intéressant ce que cet athlète dit, mais ça manque un peu d'authenticité.
Oui, mais c'est effectivement, Philippe, c'est encore une fois, tout est dans le message, tout est dans la façon de le communiquer, et tout est dans l'espèce de, justement, là, d'improvisation où on est tellement bien préparé, mais à la fin, quand c'est une passion, quand c'est important pour toi, ça fait spontané.
Ouais, c'est vrai.
Et ça fait authentique. Et c'est là, encore une fois, que les athlètes doivent apprendre aujourd'hui à pas être des messagers non plus, mais de communiquer leur passion puis ce qui leur tient à cœur. Et de cette façon-là, le message est beaucoup plus fort et puissant et percutant.
Ouais. Et la jeune génération est sans doute très habile à utiliser les médias sociaux et je pense que c'est un mouvement qui va aller en s'accentuant.
Absolument.
Ray, merci beaucoup de ta participation à l'émission. C'était encore une fois super intéressant de te parler et de ta contribution à éclairer le débat. Merci encore.
Merci Philippe, bonne soirée à toi.
Salut, c'était Ray Lalonde, notre expert en marketing sportif.